Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Est-ce un roman d'espionnage, une étude psychologique de personnages en quête de pouvoir et peut-être en quête d'existence? Oui, c'est tout cela, mais c'est aussi un roman d'anticipation que l'on craint voir se concrétiser dans notre vie, dont la réalité semble être déjà à nos portes. Nous l'avions reçu déjà à notre micro pour notre plus grand plaisir et nous constatons que cet auteur a une palette d'inspiration très étendue. Ce roman, édité par les éditions de Minuit, intitulé Sigma, est original, inattendu et passionnant, et c'est avec un grand plaisir que nous recevons son auteur Julia Deck. Julia Deck, bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, différent des romans précédents, sinon qu'il s'agit d'être dans le fond plutôt seul, très complexe, mais les humains sont complexes, ils sont en quête de quelque chose.
Ils sont tous en quête de quelque chose et ils sont en particulier en quête d'un tableau mythique qui a disparu, enfin qu'on croyait détruit et qui réapparaît, qui semble réapparaître. Et en effet, tous les personnages sont désespérément en train de chercher à remettre la main dessus par un moyen ou par un autre.
On va en parler de ce tableau. C'est un roman choral dont vous avez pris soin de lister les personnages en début de roman. Alors, je n'avais pas vu la première page et je dois vous dire que je commençais moi à lister soigneusement un tel fait ça et marié à tel. Voilà, quel casting. Alors, l'alternance des personnages, ça signifie aussi qu'il y a eu un montage, une construction assez complexe.
Oui, en fait, je voulais que les personnages racontent eux-mêmes l'histoire. Enfin, il y a la moitié des personnages qui espionnent l'autre moitié des personnages, donc c'est les espions qui racontent l'histoire. Du coup, c'est une narration décentrée, puisque chacun raconte sa partie, enfin, chacun raconte les scènes auxquelles il a assisté. Du coup, ça me semblait plus simple de mettre mettre le casting en première page, un peu comme, enfin exactement comme dans une pièce de théâtre, puisque les personnages se connaissent les uns les autres, s'espionnent les uns les autres. Moi j'aime bien lire du théâtre, j'aime bien aller au théâtre, mais j'aime beaucoup lire des pièces, alors c'est un système que j'avais envie d'adopter. Comme ça on sait tout de suite qui est le mari de qui est le chef de qui, enfin voilà, les choses sont placées.
Alors une question bête, comment avez-vous choisi les noms des personnages? Parce que je trouve qu'ils ont un intérêt, ces noms.
Je les ai choisis, j'ai emprunté beaucoup de choses que j'ai transformées. J'ai vraiment travaillé sur ce livre pendant 3 ans et j'avais envie de rendre hommage ou d'envoyer des échos au livre, au tableau qui m'avait accompagné pendant l'écriture. Donc il y a des choses qui sont un peu empruntées à des catalogues d'exposition, à des romans, mais toujours un peu transformées. C'est pas vraiment des références, enfin il s'agit pas vraiment pour le lecteur de découvrir qui vient d'où. Pour moi c'est plutôt
une de cache.
Non, et puis il y a pas de masque, et puis si on sait pas d'où ça vient, c'est pas grave du tout pour l'intrigue. En fait, c'était plutôt pour moi que j'avais envie de faire ça.
D'accord. Mais c'est vrai, alors c'est peut-être parce que ça se passe en Suisse que ce sont des noms à consonance étrangère en général.
Il y a pas mal de noms à consonance germanique,
oui. Oui. Alors un monde nanti, nous sommes, ah oui, le lieu déjà, on va parler de la Suisse, c'est pas fortuit la Suisse.
Pas du tout. Beaucoup de raisons m'ont conduite en Suisse.
Lesquelles, voyons?
Alors, j'avais cette idée d'un livre un peu, d'un roman un peu décalé, donc pour moi il fallait que ce soit décalé géographiquement, que ça reste dans un espace francophone mais un peu décalé. Bon, il se trouve que moi j'aime beaucoup la Suisse, donc je me suis dit que voilà, ça me semblait assez confortable, d'autant que quand on écrit, on passe mentalement beaucoup de temps dans l'espace géographique où on situe son intrigue. Donc je me suis dit, voilà, pendant 2-3 ans, dans ma tête au moins, je serais en entre Genève, Lausanne, Berne, Zurich, enfin, ça me semblait assez plaisant.
Alors, il s'agit d'un monde, il y a 4 personnages principaux, peut-être 5, nantis, ce sont des gens nantis, mais impitoyables quand même.
impitoyables. Disons qu'ils occupent tous des positions importantes dans leur domaine respectif. Il y a les arts, il y a la science, il y a le monde économique. C'est des gens qui ont des responsabilités et du pouvoir. Et en effet, il faut qu'ils tiennent leur rang. Donc oui, c'est des gens qui ont une responsabilité publique et leurs actions ont des effets sur autrui. Actions qu'ils assument plus ou moins d'ailleurs.
Oui, impitoyables, je pensais, dans leurs relations familiales.
Ah, entre eux
oui, dans oui. Les relations avec leurs assistants, entre guillemets. On va parler de ces assistants, de ces personnes qu'on leur colle dans les pattes. Mmh. Ils ne sont pas quand même particulièrement bienveillants.
Bah, je suis toujours intéressée par les relations de pouvoir et notamment dans le milieu du travail. Donc, il y a comme ça quatre personnages principaux qui sont tous espionnés par leurs assistants. Alors, ça fait quatre couples patron-assistant, oui. Employeur-employé. Et ces quatre couples fonctionnent selon leurs modalités propres. Alors, il y en a qui sont assez complices, il y en a qui sont dans une relation complètement sadomasochiste.
Oui,
enfin,
oui,
voilà,
ça,
il y a différentes.
Justement, alors, d'une part, moi, j'ai trouvé que les quatre personnes, je pense au milieu, il y a un chercheur, il y a un banquier, il y a une galériste, il y a une actrice, et je trouve que vraiment, c'est pas une caricature finalement, mais vous avez bien cerné les comportements dans cette catégorie de profession, je trouve ça très drôle. Et d'ailleurs, je vais dire que pour moi, j'ai trouvé beaucoup d'humour dans votre ouvrage.
Ah bah tant mieux.
Voilà. Alors, impitoyable. Alors donc, ils sont chacun accompagnés, cornaqués, disons, par un assistant fidèle et dévoué. Entre guillemets, fidèle et dévoué, parce qu'on va voir de qui il s'agit. Qui, en fait, vous allez nous dire, vous, qui ils sont, ces gens?
Alors les assistants, en fait, c'est des espions d'une organisation secrète qui s'appelle Sigma. Et Sigma, elle envoie donc ses agents auprès de personnalités influentes pour contrôler leurs agissements, leurs décisions. Puisque, donc vous l'avez dit, ce sont des gens qui ont des postes importants dans la finance, les arts, la science. Et du point de vue de l'organisation Sigma, il ne s'agit pas du tout qu'ils sortent des clous. Donc l'organisation fait en sorte que ces personnes... voilà, agissent de manière conforme sur des sentiers hyper balisés qui ne s'écartent pas du droit chemin. Et les espions sont là pour ça. Ils sont là pour les remettre dans les clous dès qu'ils menacent d'en sortir.
Alors, oui, Sigma, vous dites, c'est une sorte d'entité omniprésente, omnipotente. Mais alors, il y a une lettre écrite le 31 mars. « Messieurs, vous avez confié à notre organisation le soin de lutter contre les œuvres indésirables. Quand il est impossible de les éliminer à la source, nous les faisons entrer dans des musées où leur potentiel de nuisance s'épuise de lui-même. Aucune pièce majeure n'échappe à notre vigilance, etc. » Messieurs, ça veut dire que Sigma s'adresse à encore plus haut.
Ah oui, parce que les espions rapportent à la direction suisse ou française selon les chapitres. Et puis il y a encore un niveau, il y a la direction exécutive qui est basée aux États-Unis. Donc c'est un organigramme assez complexe et en fait on ne connaît pas vraiment le visage des cadres de l'organisation.
Oui, alors en vous lisant, je me disais, bon, on est dans un monde à la Orwell, quelque chose de ce genre. Ça fait un peu froid dans le dos parce que, à mon avis, on s'y achemine vers ce monde-là.
Oui, ou on y est déjà, selon les points de vue.
Peut-être que je suis optimiste, oui.
Alors, je ne sais pas. Alors, évidemment, j'ai pensé à 1984, au contrôle de la pensée, mais contrairement à ce qui se passe dans le roman d'Orwell, où la domination est franchement affirmée, où il y a une hiérarchie très très claire et les gens n'ont pas le droit de faire les choses.
Là, les plus subtiles.
Ici, il s'agit d'une domination douce. Oui, les gens sont subtilement, discrètement manœuvrés pour leur faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, mais ils sont en aucun cas au courant de ce qui leur arrive.
C'est d'autant plus inquiétant, à mon avis. Alors, la structure, oui, tout à l'heure, vous me l'avez dit, il y a une structure assez internationale, et puis il y a une organisation centrale, il y a un bureau d'opération helvétique, c'est bien ça, il y a un département direction exécutive, et puis il y a les agents. Alors là, les agents, qu'elle sort les pauvres malheureux. Les pauvres malheureux parce qu'ils sont à la solde et de cette organisation et puis de ceux qu'ils cornaquent, qu'ils surveillent. Bon, et donc, il y a deux comportements là aussi très intéressants. Bon, on y reviendra. Que craint Sigma en fait ?
Alors, je pense que la menace la plus grande aux yeux de l'organisation, c'est que l'ordre du monde soit bouleversé au point que les affaires arrêtent de tourner. Au bout du compte, il y a plutôt un impératif économique. Voilà, il faut que la société libérale continue de tourner et que rien ne vienne la remettre suffisamment en question pour que les rouages grincent. Quoi.
Alors moi j'ai pensé à l'URSS à une époque où tout tableau abstrait était interdit parce que ce sont des pensées déviantes qui peuvent éclore.
Oui, mais en fait, si on regarde de près, l'art, il est censuré d'une manière ou d'une autre à peu près dans tous les pays et à peu près à toutes les époques. Alors peut-être c'est violent de dire censuré.
Même encore ?
Mais il y a un choix qui s'opère, bien sûr, mais il y a un choix qui s'opère. Alors on peut pointer d'autres pays du doigt, évidemment, on peut pointer du doigt le Moyen-Orient qui a une conception très réductrice de l'art, du moins à nos yeux. Mais dans nos pays, il y a une sélection effective qui s'opère par la loi du marché. Que ce soit dans l'art pictural, la musique, la littérature aussi. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit exempt de ce travers et qu'on puisse non plus donner tellement de leçons finalement.
C'est-à-dire que nous vivons dans un monde mercantile et on est manipulé par ceux qui sont justement dans cette mouvance-là.
C'est plus compliqué que ça, parce que on est manipulé, mais on consent à cette manipulation, puisque tout est ouvert. Mais en effet, ça demande plus de curiosité, plus d'efforts d'aller vers des choses qui sont pas médiatisées, et du coup, finalement, plus simple d'accepter ce qu'on nous propose.
Oui, alors quand vous dites qu'on consent, mais on parle quand même de lavage de cerveau ou de bourrage de crâne, ça va dans le sens aussi. On peut dire que tout ce qui est pub, tout ce qui est information sur le net ou à la télévision, ça contribue. À orienter.
Oui,
et je pense aux jeunes aussi.
Oui.
Enfin, je suis déjà. Mais je pense plutôt aux jeunes qui sont toujours sur leur iPod ou iPad. Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs.
Oui, oui.
Non, vous ne croyez pas que finalement, il y a effectivement une manipulation. Ce n'est pas le grand Satan, mais enfin, quand même, on forme les gens.
On forme et on formate, mais il me semble aussi que tout le monde a le pouvoir ou le potentiel de résister à ça. Par contre, ça suppose une éducation à la curiosité importante.
Et à l'esprit critique.
Oui, je pense que ça va ensemble. L'esprit critique, bien sûr, mais la curiosité aussi, l'envie de voir des choses qu'on n'a pas déjà vues 100 000 fois. Pour moi, ça me paraît très, très important pour être autre chose que des consommateurs, des citoyens et puis des gens qui apprécient des formes d'art divers. Donc, en effet, je pense que ça commence très, très tôt, oui.
Mmh. Oui, d'autant que finalement, les enfants sont pris dans le même type d'établissement, le même type de formation. Ils envoient les mêmes émissions, souvent les mêmes. Donc, on commence très tôt. Ils ont très tôt une formation qui va dans le même sens. J'avais lu un article très intéressant où on disait qu'il faut que les enfants soient seuls et s'ennuient, arrivent à s'ennuyer, que c'était très formateur. Mais maintenant, ils ne sont plus seuls, ils ne s'ennuient plus.
Oui, ça c'est vrai que l'ennui, ça me paraît finalement
une bonne
donnée
valeur.
Très très intéressante. Oui. Oui, avoir la capacité de s'ennuyer et pas avoir besoin d'être dans un zapping permanent. Alors on a commencé avec le zapping à la télé, mais maintenant évidemment c'est le zapping avec Internet et le zapping avec la lecture. Enfin maintenant ça devient difficile, un effort considérable de lire un long article sur un journal parce qu'on a pris l'habitude de lire... trois lignes par-ci, trois lignes par-là en courant de site en site. Mais en même temps, il y a un tel... Je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un tel sentiment de vide qui se dégage de ces expériences-là qu'on a envie de revenir sur des formats plus longs et plus posés. Mais en effet, ça suppose d'avoir eu un petit peu l'habitude de s'ennuyer et de faire des efforts avec certaines lectures quand on était jeune. Ouais.
Je crois. Alors, les agents qui ont été mandatés par Sigma, cette organisation... envoient des rapports réguliers sur ceux qui assistent ou espionnent, en fait, c'est une forme d'espionnage. Alors, ce qui est drôle, c'est que finalement, ils envoient donc leur rapport. Et c'est comme ça que vous nous donnez toutes les informations. L'histoire nous est racontée à travers le rapport. Et également, ils ont leur propre réaction. Alors, on a non seulement les personnages principaux, mais finalement, ces personnes-là, ces assistants, sont également importants, très importants.
Mais l'espion, il est partie prenante dans la situation. Quand il veut manœuvrer quelqu'un, enfin, j'ai pas fait de grandes études d'espionnage, malheureusement, mais pour manœuvrer quelqu'un, il faut gagner sa confiance. Donc, il faut se mouiller un peu, il faut être présent dans la situation, et puis il faut renvoyer quelque chose à la personne en face de vous. Personne qui, en l'occurrence, est quelqu'un de tout à fait éduqué, une personne influente de pouvoir, comme on a dit. Donc, ces espions sont pas simplement des éponges, ou des meubles, enfin ils ont leur sensibilité propre qui transparaît, ils ont leur personnalité qui transparaît aussi dans leurs écrits.
Alors, excusez-moi Julia Day, mais madame Béatrice Bobillard,
oui,
elle a une sensibilité qui ne paraît pas...
Alors cette personne-là, elle a la sensibilité d'un bloc de glace, en effet, mais c'est un type de personnalité. Tous les espions ne sont pas comme elle,
oui.
Mais elle a la cote auprès de l'organisation. Oui, mais parce qu'elle,
voilà,
elle se laisse pas, facilement décontenancer. Oui.
Et elle a peu de sentiments affectifs. Hein, j'ai l'impression.
Alors, si on regarde bien, elle a un sentiment affectif pour son travail. Elle ne supporte pas le désœuvrement, cette dame.
Et elle fait froid dans le dos. Hein.
Oui, moi j'ai de la tendresse pour ces personnages-là. Et je les trouve très...
Oui, mais vous les avez créés, c'est normal que vous les aimiez.
On n'est pas objectif.
Oui, alors, et régulièrement, Sigma intervient par des commentaires, des ordres écrits. Elle oriente, approuve, critique. Et là aussi, on voit que c'est quand même une organisation. Bon... Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Il me semble que dans l'espionnage, on doit pouvoir aller jusqu'à assassiner quelqu'un, faire assassiner. Il y a eu l'affaire que vous ne connaissez peut-être pas, vous êtes très jeune, des parapluies bulgares.
Oh bah, y a plein d'histoires d'assassinats dans le cadre de missions d'espionnage. Enfin, pendant la guerre froide, enfin moi j'ai pris mon inspiration de, elle est assez lointaine, enfin c'est les premiers romans de John le Carré qui sont basés sur des faits, enfin il y a eu plein d'histoires d'agents doubles, d'agents triples assassinés, de cibles assassinées bien sûr. Ouais.
Tout à l'heure on parlait d'Orwell et de son ouvrage 1984. Oui, c'est ça. Ouais. Entre 84 et 85, je ne me souvenais plus.
Non, c'est 4.
Et puis, il y a des films aussi où on voit que la Terre entière est gouvernée par un seul pouvoir. Et je me dis, peut-être, puisqu'on parlait tout à l'heure de marchandisation, peut-être qu'on va y arriver à cela.
Bah, je pense que c'est une tentation très séduisante de se dire que tout ça résulte d'un complot, qu'il y a une vaste manipulation organisée depuis le sommet de la pyramide. C'est le principe du livre. En effet, la réalité reposerait sur un complot international ultra organisé. Mais c'est vrai que c'est un complot un peu décalé. Hein. C'est un complot... personnellement, je ne suis pas très, très sensible aux thèses complotistes. Je me dis que c'est vraiment des théories qu'on peut essayer de trouver pour se rassurer, pour se dire qu'il y a une explication à tout ça. Mais à titre personnel, moi, je crois davantage au chaos qu'au complot.
Oui, moi, je ne prendrais pas non plus forcément l'idée du complot en ligne de mire. Mais seulement, c'est vrai qu'il y a des caméras dans les rues, des micros qui entendent même à travers les murs, les outils informatiques, quoi que vous écriviez. C'est vrai. Tout ça, nous en usons, nous en abusons. Il y a les selfies et les jeunes aussi. Et ça permet quand même, en effet, de surveiller, de contrôler, d'éliminer. Moi, j'ai été frappée, Julia Deck, de voir que je regardais une robe sur Internet et ensuite une série de robes qui sont dans ce style-là m'apparaissent. Je me suis dit, il y a un œil qui m'observe.
Ah oui, c'est terriblement angoissant. Vous avez l'impression que le moteur de recherche est dans votre tête et sait à quoi vous pensez avant que vous l'ayez formulé. Oui, c'est très angoissant. Oui, on est sous surveillance en permanence et de toutes parts, hein, ça c'est certain. Après, la question, c'est tout ça produit une telle masse d'informations, on peut se dire, mais c'est noyé. Enfin, comment exploiter ces données? Alors, les sites marchands qui y arrivent très bien, ou plus ou moins bien, ou de mieux en mieux. Moi, je suis pas encore très paranoïaque parce que je me dis que, oui, en effet, toutes ces informations sont noyées dans la masse, mais peut-être j'ai tort. Hein.
Oui, c'est vrai que bon, je pense pas avoir une personnalité telle qu'on me surveille de là-haut. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. Et moi, je me la suis posée en lisant votre ouvrage. Je me suis dit, oui, dans le fond, il y a on va pas dramatiser non plus, hein, je ne suis pas dans l'angoisse, mais il y a quand même cette idée que d'une surveillance qui peut s'exercer très facilement. En tout cas, tout ce qui anime ces personnages et leurs assistants, tournent autour d'un tableau, disparu, mais que l'on sait exister. Alors, moi, j'aimerais que vous nous lisiez un petit extrait, si vous êtes d'accord, peinture de Kessler. Il n'existe pas.
Non, c'est un peintre inventé. Oui.
Alors, écoutez, vous m'enlevez un grand point, parce que je me suis dit, mais je suis nulle, ma fille.
Le peintre mythique du livre est totalement inventé.
D'accord. Alors, c'est à la page 75. Il y a une petite étoile, et puis vous arrêtez la page suivante aussi, voilà.
Sur les murs peints en noir, les grands monochromes vous sautent à la figure. C'est un incendie, une lave de couleurs, de sorte qu'on n'a pas du tout l'impression de se tenir devant des tableaux, mais face à un élément purement organique, une substance neuve. Sur les plus anciens, on distingue encore quelques éléments figuratifs. Le peintre étale de grands aplats rouges, puis trace au crayon des visages, forçant sur les angles, méplats, mâchoires, pour atténuer les arrondis, œils, lèvres, oreilles, comme si les organes des sens s'atrophiaient lentement, diminués au contact de la couleur. Les figures disparaissent au fil du temps, explique Elvire en me conduisant de l'un à l'autre, et Kessler s'oriente peu à peu vers l'abstraction pure. Observe le travail du pinceau, l'acharnement de la main pour faire jaillir le feu du bout de ses doigts. Il possède un geste très particulier pour mêler les différentes teintes de rouge. La couleur est saturée dans la partie supérieure de la toile, puis elle perd en intensité comme on se rapproche du bas. Cet estompement est caractéristique de ses obsessions. Il représente sur un plan vertical l'effritement de l'être à mesure que la conscience progresse vers l'intérieur. À la fin, la couleur s'est entièrement fondue dans le blanc.
Voilà, alors, description de l'œuvre de ce peintre, Kessler, il y a certainement une idée de beauté et même de sidération de la part de certains devant ces tableaux. Mais on devine quand même que pour certains, c'est l'argent qu'il représente qui est important.
Alors oui, donc ce Kessler a peint 13 toiles qui sont dans un musée, plus une toile mystérieuse après laquelle courent tous les personnages. Et c'est vrai que tous ces personnages, ils s'y intéressent à des titres divers, et pour certains d'entre eux, c'est simplement parce qu'elle vaut beaucoup d'argent, oui. Il y a une galeriste qui espère en tirer profit, et elle est sensible à sa valeur plastique, mais enfin, c'est pas son intérêt premier.
Exactement, là. C'est ce qu'on ressent. Je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter Stéphane Escher. J'ai cherché un chanteur suisse que je connaissais. Déjeuner en paix, et nous reprendrons ensuite.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est miroir. peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. La chaise, le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, Stéphane Escher a mis beaucoup d'animation dans un pays qu'on penserait plutôt tranquille. Hein, Julia Deck, vous qui venez nous parler de votre roman Sigma, qui se situe en Suisse. C'est un pays qui paraît calme, mais c'est cela aussi, hein, il y a quand même toujours un peu des idées qu'on se fait toutes faites.
Mais c'est un pays très calme. Enfin, j'ai un peu voyagé. Et même quand vous allez dans les grandes villes, vous avez une sensation d'apaisement, en tout cas par rapport à la France. Mais c'est aussi un pays où beaucoup de choses sont cachées, masquées, larvées, pas dites.
Oh, ça tombe bien. Voilà, j'ai rencontré un psychiatre, un professeur de psychiatrie qui parle du secret. Oui, voilà. Mais ça, justement, normalement, ça doit poser un problème, ces choses cachées, larvées, non?
Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème, mais c'est aussi le ressort du roman d'espionnage. Si rien n'est caché, il y a pas de raison d'espionner.
Non, mais je parlais du pays là.
Ah, du pays.
Mais oui, d'autant qu'on va pas raconter la fin, surtout pas. On peut pas. Mais Dieu sait que la fin est très intéressante aussi. Alors revenons à ce tableau. Effectivement, donc la galériste, visiblement, oui, elle aime l'art, mais elle a quand même, elle a un intérêt financier très grand. Là, bizarrement, alors vous prenez les gens un peu à contre-pied, c'est le banquier qui me paraît très, beaucoup plus touché par l'art.
Absolument, oui, c'est un banquier très paradoxal. Alors c'est un banquier collectionneur et qui conseille à ses clients des investissements dans l'art contemporain. Mais il se trouve qu'il est réellement amateur d'art et qu'il se laisse même complètement renverser par une œuvre en particulier, au point que l'organisation Sigma doit lui envoyer un espion pour lui remettre les idées en place, parce qu'il est complètement en train de vriller. Il fait partie des dirigeants d'une grande banque genevoise. Et il est prêt à tout remettre en question parce que voilà, le tableau aura une influence définitive sur lui.
Voilà, alors Sigma ne se contente pas d'envoyer quelqu'un auprès du banquier. Elle envoie quelqu'un auprès de la galériste, auprès de l'actrice et auprès du chercheur. Alors là, il y a 4 portraits très savoureux, je dois dire. Là, je me suis régalée. Que craint Sigma ? Ou que craint l'organisation au sommet de Sigma ?
Mais l'organisation, elle craint les idées que ces gens pourraient se mettre en tête de répandre vis-à-vis du plus grand nombre. Donc si le banquier il se met en tête que le système financier finalement ne repose sur rien et que l'art est plus important que la finance, ça représente une grande menace aux yeux de l'organisation. La galeriste, elle est quand même plutôt, sans le savoir, du côté de l'organisation, parce qu'elle veut faire rentrer les œuvres dans un musée où elles seront sous bonne garde et pour ainsi dire prisonnières. Donc voilà, à son insu, elle joue le jeu de l'organisation. L'actrice qui est la sœur de la galeriste, c'est une actrice très connue, enfin qui vient de connaître la gloire, et ça fait des années qu'elle tourne dans des films d'art et d'essai. En fait, elle aimerait bien continuer à tourner dans des films d'art et d'essai, sauf que maintenant qu'elle est devenue une vedette publique, l'organisation estime qu'elle a une responsabilité publique et qu'elle doit jouer dans des films qui font venir du monde et influencer les conduites du public à travers ses choix cinématographiques.
Alors, je vous lis ce que craint Sigma de ce peintre Kessler, c'est une insurrection plastique qui altère irrévocablement le regard, donc incontrôlable. C'est ça.
C'est ça.
En fait, c'est ça, incontrôlable. Oui. Moi, je me suis posé la question, l'art peut-il être subversif, en fait ? Vous qui êtes écrivain, je ne dirais pas écrivaine, hein, si vous permettez.
Dites ce que vous voulez. Voilà. J'ai pas d'avis tranché sur ce sujet.
Est-ce que l'art peut être vraiment subversif ?
Oui, moi je pense qu'une œuvre plastique ou littéraire qui a un effet très fort sur le lecteur ou le spectateur, elle peut remettre en question des tas de choses. Enfin, on est plus ou moins sensible à la peinture, à la musique, à la littérature, mais moi j'ai souvent eu ce sentiment de vertige devant une œuvre qui n'était pas forcément la meilleure que j'ai jamais lue ou vue, mais il y avait une très forte résonance et tout d'un coup il y a beaucoup de choses autour qui me semblaient dérisoires. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu écrire aussi, donc j'ai toujours eu cette espèce de tension entre la littérature et la vie de tous les jours, parce qu'il faut bien manger quand même. Donc moi j'ai l'impression d'avoir éprouvé cette tension-là depuis très longtemps.
Par exemple, dites-moi, quel livre vous a marqué profondément ?
Récemment, par exemple, récemment, c'est la Montagne Magique de Thomas Mann que j'ai lu pendant que j'écrivais Sigma, qui est un livre par moments extraordinairement ennuyeux. Mais c'est un livre dans lequel on plonge, avec lequel on vit, on se laisse entourer par les personnages qui vous tiennent compagnie pendant les mois que vont durer la lecture, parce que c'est un gros livre,
c'est pas un livre
qui va se lire en 5 minutes. Et pour moi, c'est au-delà de la lecture, c'est réellement une expérience. C'est une expérience de vie, quoi. C'est 6 mois où j'ai vécu accompagnée par ce livre, que j'ai trimballé dans des endroits extrêmement divers.
Et que vous avez vécu dans un sanatorium.
Et que j'ai vécu dans un sanatorium, ouais, c'est assez étonnant, l'expérience du sanatorium en Suisse, parce que ça se passe à Davos.
À cette époque-là, oui.
Mais je l'ai lu en partie au Brésil, alors je peux vous dire qu'il y avait un décalage tout à fait étonnant entre le paysage du livre et le paysage absolument idyllique que j'avais sous les yeux.
Oui, en effet. Oui, parce que je pensais moi aussi, il y a certains chefs-d'œuvre architecturaux qui ont été des témoins d'une civilisation passée, qui ont été détruits récemment. Donc, ça, parce qu'on jugeait qu'ils avaient un côté subversif.
Oui. Oui, de fait, tous les régimes autoritaires se sentent menacés par l'art. C'était le cas du nazisme, c'était le cas du pouvoir soviétique. Mais c'est aussi pour ça que je me demandais, évidemment, on ne vit pas dans un régime autoritaire, mais quelle est la place de l'art et qu'est-ce qu'on laisse accéder au marché et pourquoi ? Ça me semble intéressant.
Ben, quand on voit les œuvres, par exemple, de Kuntz...
Oui.
Moi, je me dis, oui, qu'est-ce que ça représente ?
Oui, en effet, est-il utile de monopoliser l'attention de tout le public autour de d'une chose pareille ? C'est, en effet, ça pourrait faire croire à la manipulation.
Ouais, oui, absolument. Alors, les personnages, les assistants, sont donc très différents. Et alors, il y en a un... En fait, il y a un couple, je dirais, qui est... qui a notre sympathie spontanément, mais vous allez deviner lequel. On a l'impression qu'ils ont vraiment des sentiments, un affect. Ils sont plus fragiles que les autres, probablement, mais ils sont. On sent capable d'émotions. À qui je pense ?
Je ne sais pas.
Moi, je pense à l'actrice et à son assistant.
Ah, d'accord, oui. Oui, c'est pas un couple officiel, c'est pour ça que je... Oui, l'actrice, elle est tout à fait... L'actrice, elle n'est pas dans la manipulation. Oui, c'est vrai que son métier, c'est mentir, si on veut. Mais en fait, je pense que c'est la plus... c'est celle qui est la plus en phase avec ses émotions et la réalité de ce qu'elle éprouve. Oui, et en effet, elle succombe au charme de son jeune assistant. Et lui-même, il est employé par l'organisation secrète, mais il finit par jouer un jeu un peu trouble parce qu'il est aussi très attaché à sa cible.
Oui, exactement. Alors ça, c'est très intéressant de voir cette... on pourrait les prendre un par un parce qu'ils ont tous quelque chose quand même de caché. Et cette actrice, alors oui,
elle a un secret, c'est vrai.
Elle a un secret qu'on ne connaît pas, on n'en parlera pas, mais elle a un secret et elle a des rapports très difficiles avec sa sœur, un contentieux dont on ne connaît pas la cause, et en même temps on sent une fragilité et une force en elle. Alors la force, c'est quand elle se révolte contre ce qu'on veut lui faire faire. Alors là aussi, moi, j'aimerais bien que vous me lisiez encore un passage, si je ne sais pas trop vous demander.
Mais pas absolument.
Alors, il s'agit de là, lorsqu'elle dit « Le sourire de la lune ». On lui a fait dire des bêtises. Et puis, honnêtement, en lisant ce qu'elle disait, je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle est nunuche, cette fille ?» Et puis finalement, ensuite, elle se révolte. Mais évidemment, c'est une voix off là qui parle.
Oui, elle lit en public, en tout cas, quand elle donne des interviews, elle lit les fiches préparées par son agent qui s'appelle Curzio.
Oui, c'est ça.
Le sourire de la lune, Curzio, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit ça. Tu m'as dit de dire ça. Je ne comprends pas pourquoi tu veux à tout prix me faire passer pour une cruche. J'aimerais parler d'art, de littérature, et tu me fais raconter que je bouffe des légumes. Il suffirait de dire la vérité. Ça ne va rien changer, l'ours d'argent, mais voyons, ça va tout changer, tu le sais mieux que moi. Cette récompense augmente considérablement ma valeur sur le marché européen. Il y a 2 ans, je me serais roulé par terre pour être dans le mulot. Aujourd'hui, s'il ne déroule pas le tapis rouge, hors de question que je mette les pieds dans son navet. Et partager l'affiche avec Olga Ostrovsky, c'est non. Déjà, Gaspard Tortier, ça ne m'emballait pas, mais Ostrovsky, jamais de la vie. Je refuse, je dis bien je refuse de tourner avec elle, même si elle joue ma rivale malheureuse et même si elle sort défigurée de l'accident de voiture à la fin. Si j'accepte le mulot, c'est mon film. Et puis Ostrovsky, il faudrait l'attendre jusqu'à la fin de l'année. Or, je compte bien être débarrassée de cette histoire dès que possible. Parce que je veux absolument faire le Wilson. Je sais que tu es contre, trop risqué. Mais Gloria est une véritable actrice, pas comme ton fossile de mulot. Il faut me lâcher un peu la bride, de Curzio. Ça fait 2 mois que je tourne en boucle, j'ai besoin d'air. Et si je partais plutôt pour Zurich? Les répétitions commencent en juin, mais j'ai envie de passer du temps en Suisse. Voir les lacs de montagne, ça me fera du bien. En tout cas, je te remercie de m'avoir envoyé Karl. Je me sens très en confiance avec lui. Au début, ça me gênait un peu d'avoir un assistant au lieu d'une assistante. On est si proches, il sait tout de moi. Mais il n'a pas la moindre malice. Et puis la façon dont il me regarde. D'ailleurs, le mulot ne lui inspire rien de bon. Il dit que c'est trop tôt pour moi. Que ce n'est pas quand on a les médias de son côté qu'il faut se fourvoyer dans la soi-disant qualité française, même à gros budget, même si Tortier a dit oui. Ok, Curzio, je relis le projet et je te rappelle. Ce soir sans faute ou demain. Ciao, ciao, mon ami. Karl, où es-tu? J'ai perdu le texte de mulot.
Voilà. Oui, alors celle-là, elle est humaine. Et on retrouve des personnages féminins de vos ouvrages précédents.
À vrai dire, je me demande si les personnages féminins de ce livre-ci se rapprochent beaucoup des personnages des deux précédents dans le livre, qui étaient des personnages féminins vraiment désaxés. Qui ont des crises identitaires majeures. Là, il me semble que c'est quand même assez atténué. Par contre, le banquier a une crise identitaire majeure.
Oui. Elle, quand je dis personnage féminin, c'est-à-dire comment arriver à se réaliser, à exister.
Oui, mais en même temps, donc, qu'il s'agisse de l'actrice ou de la galeriste, les deux sœurs, elles ont toutes les deux une carrière bien engagée et elles se posent des problèmes, mais des questions que se pose un peu tout le monde, qui a une carrière qui avance bien, qui semble toute tracée. Et puis forcément, il y a des moments où il y a des heurts, des à-coups, mais oui, peut-être ça étudie cet aspect-là de leur personnalité, mais elles ne sont pas dans des crises majeures non plus.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons écouter encore un petit peu Stéphane Escher, toujours suisse, et nous reprenons ensuite.
Quand me fous à jeter la main, des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec tes mains. Faut te dire que je me sens seul, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec les bruits des corps qui m'entourent, comme des liens dénoués de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours, quand tant de drames nous empressent. Et les larmes et le stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec les bruits des corps qui m'entourent, comme des liens noués de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris des SOS battent dans les airs, dans l'eau, la sinistresse. Dans les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pied de toile sur les. Ramasser les bouts de verre, j'ai récolté tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau, contre le passier rien à faire, il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec les bruits des corps qui m'entourent, comme des liens dénoués de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS battent dans les airs, dans l'eau, la sinistresse. Dans les écumes font la
d'auteur Monique Fauché.
Voilà, Stéphane Escher ne déjeunait plus en paix, non, mais il parlait de tous les cris, les SOS. Un bon chanteur, Stéphane Escher, qu'on entend moins maintenant, il me semble, sur nos antennes. Alors, nous revenons auprès de auprès de Julia Deck, nous reprenons cet entretien au sujet de Sigma, donc une organisation internationale. Ce n'est pas l'œil de Moscou, ce n'est pas Big Brother, mais c'est quand même une organisation qui essaie de mettre sur des rails, de surveiller un petit peu les fantaisies picturales et autres que peuvent engendrer les hommes. Alors là, il s'agit d'un tableau. Donc, ce tableau est convoité par pas mal de monde. Et en particulier, la galériste. Alors ça, on comprend parce que ça serait vraiment son œuvre d'arriver à récupérer ce tableau disparu. Elle sait qu'il n'est pas disparu. Elle a des relations avec son assistant qui sont assez drôles finalement.
Oui, ils sont assez complices. Donc son assistant est beaucoup plus jeune. C'est un jeune diplômé, sans doute en histoire de l'art, qui est tout à fait, qui aime bien travailler pour elle et qui a trouvé sa place dans cette galerie.
Ils s'entendent plutôt bien.
Même si lui, il grince un petit peu des dents de temps en temps parce que c'est vraiment un assistant à géométrie variable. Autant il va rédiger les textes de catalogue, autant elle va l'envoyer au pressing et chercher les enfants à l'école parce qu'elle a une espèce de hantise de ses enfants, elle veut surtout pas en approcher si elle peut l'éviter. Donc il joue un peu le rôle de père de substitution, cet assistant.
Voilà, alors elle n'hésite pas à faire des coups pendables. Bon, franchement, elle peut aller jusqu'à la malhonnêteté, mais ça reste en famille, hein, on pourrait dire, puisqu'elle va réussir à s'introduire dans une maison qui n'est pas la sienne.
Ah oui, donc elle essaye d'abord d'obtenir le tableau par des moyens de pression plus ou moins douces, et puis comme ça marche pas, ben finalement elle renonce à toute morale, et en effet elle s'introduit chez le collectionneur en question, et puis elle a compris que aussi lui il avait des choses à se reprocher, donc elle a un peu moins de scrupules.
Alors il y a son mari.
L'auteur.
Voilà, qui est lui, qui est chercheur, qui est très. Un séducteur narcissique, on dirait.
On peut dire ça.
Oui. Alors, il a une thèse originale qui risque de perturber l'équilibre social, à savoir. Sa théorie, c'est les femmes seront les égales des hommes quand elles connaîtront le même épanouissement sexuel.
En gros, c'est ça, oui, c'est un chercheur en neurosciences, et alors il a trouvé une explication au fait que les hommes et les femmes n'ont pas atteint un réel niveau d'égalité dans la société. Il y a des disparités de salaire, il y a des disparités de représentation au niveau de toutes les organisations importantes, des conseils d'administration. Et lui, il rattache tout ça à une explication neurologique. Il a découvert que le plaisir avait un impact sur le cerveau et que plus cette zone du cerveau était stimulée, plus les hommes et les femmes tendraient à occuper le pouvoir avec facilité.
Alors, cette théorie qu'il a concoctée, il y tient, c'est son bébé, c'est son enfant.
C'est son œuvre.
C'est son œuvre. Et puis, j'espère quand même, parce qu'il est très mégalo, hein, j'ai dit narcissique, séducteur, oui, mais mégalomane, ça lui apportera l'ultime notoriété, non ?
Oui, c'est un personnage avec un ego très très important, et il tient à tout prix à sa théorie. Et puis bon, il semblerait qu'il la défende plutôt bien. Enfin, il a des auditeurs et des gens qui le suivent. Et du coup, il commence à poser problème aux yeux de l'organisation. Parce qu'en effet, s'il parvient au fil des expériences à bouleverser l'ordre social, ça n'arrange pas du tout les affaires de Sigma.
Oui. Alors, ce qui frappe, nous allons parler du banquier et de l'actrice, ce qui frappe aussi, c'est combien ils sont méprisants à l'égard des indigents, et en particulier à l'égard de leurs assistants. Il y a un manque de respect des autres.
Alors, je ne sais pas s'ils sont réellement méprisants. En fait, je pense qu'ils sont complètement déconnectés. Et c'est des gens qui ont atteint un niveau de pouvoir où pour eux, c'est plus normal d'aller faire ses courses ou faire toutes les choses de la vie courante.
Mais ils ont une manière de leur parler qui est quand même épouvantable.
Oui, alors c'est étonnant parce que je lisais il n'y a pas très longtemps dans une revue américaine un article sur... on a fait passer des IRM dans certaines situations à des gens de pouvoir. Et il semblerait qu'en effet, plus on atteint un poste de pouvoir, plus la zone qui correspond à l'empathie s'atrophie. Alors c'est réversible, ça c'est la bonne nouvelle, mais en effet il semblerait que les gens très importants qui ont l'habitude qu'on fasse tout pour eux, ils perdent toute capacité d'empathie, donc c'est pas réellement
comme
du
vous dites, oui.
Voilà, c'est pas réellement du... Bon alors j'ai lu une seule étude à ce sujet, mais c'est pas réellement du mépris, c'est que juste ces gens ne savent plus faire avec les autres. Et d'ailleurs quand on écoute certains discours politiques par exemple, on a cette impression qu'ils savent pas du tout de quoi est faite la vie des gens.
Oui, oui, tout à fait. Alors, le banquier, c'est, à mon avis, celui qui est le plus intéressant, quand même.
Ah, moi, c'est mon préféré, oui.
Ah, ben voilà. Nous partageons cette préférence.
Pourtant, je n'ai pas généralement beaucoup d'affection pour les banquiers, nécessairement, mais celui-ci...
Enfin, dites à votre banquier que c'est celui que vous préférez. Il est en recherche, il se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez lui ?
Oui, oui, il est complètement retourné par ce tableau, donc qui lui fait voir la vie complètement différemment, et du coup, il aimerait bien, il voit plus l'intérêt d'aller à la banque, il ne voit que l'intérêt de s'asseoir devant son tableau.
Et il se désintéresse totalement des chiffres, des investissements, des placements, mais il s'en fiche totalement.
Bah oui, parce que arrivé à ce stade-là, ça n'a plus aucun sens pour lui.
Oui, il a besoin d'air, il a besoin d'autre chose.
Voilà, il semblerait que ça ne suffise pas.
Oui, et Dieu sait que son épouse, comme son beau-frère, le chercheur, se moque de lui.
Oh bah, ils se moquent de lui, surtout ils ont beaucoup plus les pieds sur terre. Son épouse, qui va bientôt devenir son ex-épouse, veut absolument mettre la main sur ses biens. Et le chercheur Lothaire, qui est son ami, il a surtout besoin qu'il l'aide à financer ses recherches. Donc ils sont, oui, tout son entourage est très intéressé en fait.
Oui. Alors il y a quand même entre eux une rivalité, une jalousie c'est sous-jacente.
Il y a beaucoup de rivalité entre les personnages, mais en même temps, ils s'aiment bien. C'est aussi les rapports humains sont à double tranchant. Hein. On aime les gens, on les admire, on les envie. Je trouve ça intéressant de mettre ça en scène plutôt que de le passer sous silence. Enfin, oui, c'est aussi ça les rapports humains.
Oui, alors j'allais, mais effectivement, là, c'est son ex-femme qui dit ça, donc elle sort déjà de l'environnement. Je crois que c'est le chercheur qui dit en parlant du banquier, il est dans une mauvaise passe et elle qui dit sa vie entière n'est qu'une mauvaise passe. C'est dur.
Oui, oui, mais alors son ex-femme, elle a une... C'est son ex-femme qui dit ça.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, elle a réellement une dent contre lui. Il y a un passif assez lourd, semblerait-il, donc elle est prête à dire n'importe quoi aussi.
Voilà, alors, voilà, écoutez, voyez, je trouvais que 52 minutes, c'était formidable. Et voilà, déjà, on pourrait parler de... Donc, on a parlé de Madame Bobilla, on a parlé de ce rôle infernal des agents qui sont à la fois la botte de Sigma et de ceux qu'on les a attachés, à qui on les a attachés. Et puis, il y a plusieurs suspens qui arrivent, un secret de famille inattendu. Il y a plein de clins d'œil à des références culturelles plus ou moins explicites. Il y a un final étonnant, moi je dirais même détonnant. En fait, et tout ça servi par l'écriture. Alors j'avoue que je me suis régalée parce que c'est inattendu. Il y a beaucoup de registres, des rapports, des notes ou ordres de mission, dialogues, une scène de théâtre, une interview, une conférence. Enfin, cette grande variété de gens, ça, on ne s'ennuie pas. On se dit, mais par quel bout elle va prendre ça? Et finalement, eh bien, tout se suit. Et il n'y a aucun ennui, bien entendu, là-dedans. Bon, et puis surtout, il se passe beaucoup de choses. Voilà. Donc, un bon livre.
Merci.
Et nous espérons... C'est votre troisième roman, non?
C'est mon troisième, oui.
Voilà,
oui.
Bravo. Merci. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman de Julia Deck paru aux éditions de Minuit et intitulé Sigma. Un grand merci.
Merci à vous.